Chapitre 5. Suavita isole. Nous rétrogradons de quelques heures pour pénétrer enfin dans cette mystérieuse maison à deux étages, dont nous n'avons pas encore franchi le seuil, mais qui a sans nul doute piqué la curiosité du lecteur, ne fût-ce que par le foulard rouge flottant comme un drapeau à son balcon. Ainsi en est-il dans ces récits de l'histoire du crime, où l'écrivain n'a à dépenser ni beaucoup de talent ni beaucoup d'imagination. Les faits sont là, qui se posent d'eux-mêmes en jalon, les personnages existent, il ne s'agit que de ménager un peu l'intérêt contenu dans ces étranges procès-verbaux. Au premier étage de cette maison du quai des Orfèvres, qui faisait face à la fois à la lucarne de notre pauvre ami Paul Labre et à la fenêtre sud-ouest de la tour du coin où Jean Labre venait d'être assassiné, habitait la famille du général comte de Champmasse, prisonnier d'État. La famille du général, veuve depuis quelques années, se composait seulement de deux filles. Lors de sa condamnation, qui avait eu lieu à la suite des événements que nous avons rapportés vers la fin de 1833, le général n'avait pas eu à s'occuper de ses filles. Elles restaient tout naturellement à la garde de leur tante, mademoiselle reine de Champmasse, laquelle entourait son frère d'une affection telle que jamais elle n'avait voulu se marier. Il n'avait fallu rien moins que cette affection véritablement profonde pour amener mademoiselle reine à conserver la direction de la maison de son frère, malgré l'intrusion d'une jeune fille étrangère qui vint s'établir à l'hôtel peu de mois après la mort de la comtesse et que le général présenta d'abord comme étant mademoiselle de Champmasse. Suavita, la jeune fille du général, la fille unique de madame la comtesse, avait alors 11 ans. Son père l'adorait, mais elle avait eu une enfance souffrante et incessamment menacée. Le général était frappé par l'idée qu'il la perdrait. L'autre, celle qui venait on ne savait d'où, fruit de quelque aventure de jeunesse, se nommait Isole et avait alors 15 ans. Au reproche de sa sœur, chagrine et presque indignée de voir arriver cette étrangère qui allait partager les droits de l'enfant légitime, le général avait répondu « Dieu m'a pris ma femme, qui était un ange. Suavita est un ange que Dieu me prendra. Laissez-moi habituer celle-ci à m'aimer, pour que je ne reste pas seul sur la terre. » Il expliqua alors que feu la comtesse, loin d'ignorer l'existence de cet enfant, déjà reconnu lors de son mariage, avait consenti à la légitimer par le contrat secret, à la condition qu'elle n'habiterait point la maison paternelle. La bonne tantraine, soumise et dévouée, n'avait pas résisté longtemps. Non seulement elle n'avait point tenu rigueur à la fille naturelle de son frère bien-aimé, mais la tendresse était venue peu à peu, et dans les premiers mois de sa vie, elle s'était faite la complice du général pour assurer complètement la position d'Isole. Il faut dire qu'Isole était une jeune personne accomplie, belle, douce, spirituelle, brillante, et poussant la séduction jusqu'au charme. Du vivant de madame la comtesse, et tout en la tenant éloignée de la maison, le général n'avait jamais négligé son éducation. Isole avait été élevée dans un de ces couvents « fashionables » où sortent tant de jolies merveilles. Elle savait tout ce qui se peut apprendre, et comme l'esprit, la grâce, l'élégance semblaient innées en elle, l'excellente sœur du général se serait fait un scrupule de conscience de ne point la déclarer parfaite. Nous avons dû constater déjà que la famille de Champmasse était puissamment riche, mais à la suite de son procès politique, le général avait vu mettre ses biens personnels sous le séquestre. Il y avait déjà longtemps que ses filles et sa sœur avaient abandonné l'hôtel de son nom pour vivre en province ou chez des parents. Depuis 6 mois que la tantraine était morte, on avait séparé les deux jeunes filles. Isole demeurait chez une parente éloignée de monsieur de Champmasse, qui avait nom madame la comtesse de Clare, et Suavita était à son tour au couvent. Par le fait, le général n'avait plus de maison, quoiqu'un certain nombre de vieux serviteurs de la famille restassent groupés autour d'Isole. Madame la comtesse de Clèves, fort belle personne, qui occupait une position nouvellement conquise et un peu mystérieuse dans le monde légitimiste, avait été choisie par le général à l'exclusion de parents plus proches et d'amis plus intimes. On ne savait pas bien pourquoi. Ceux qui s'intéressaient à la famille de Champmas caractérisaient cette situation par le mot « provisoire » qui était alors fort à la mode. Évidemment, les choses devaient changer, et peut-être le plus naturellement du monde, car le procès, c'était la vie publique, avait été conduit avec une rigueur passionnée, et l'intérêt de l'autorité supérieure était d'aller vers la clémence. Avant de poursuivre notre récit, un mot encore sur cette comtesse de Clèves, qui devait être, quelques années plus tard, une des étoiles du firmament parisien. Son mari était véritablement comte et de la meilleure noblesse. Il avait nom Chrétien Jouloux du Bréhu. Nous avons raconté fort au long l'histoire de son mariage dans une de nos dernières compositions. Ce brillant et chevaleresque nom de Clèves, ajouté au nom un peu obscur et très bretonnant de Jouloux du Bréhu, aurait certes pu donner matière à contestation, mais le général duc de Clèves, seul représentant de la maison quasi souveraine des Fitzroy, loin de réclamer, avait noué des relations avec la belle comtesse. Jouloux du Bréhu et Fitzroy de Clèves s'étaient alliés une fois vers 1700 et tant. Les titres produits parurent suffisants à monsieur le duc. Madame la comtesse avait d'autres belles connaissances, et dans des camps fort divers. Monsieur Schwartz, le banquier à la mode, la portait au nu. Elle était la favorite du fameux colonel Bozzo, le saint de la rue Thérèse, qui achevait sa longue et pure carrière, entourée du respect de tous. Et pourtant, je ne sais quelle rumeur allait et venait. On s'étonnait que monsieur de Champmas eût confié ses filles à cette belle créature qui était née en quelque sorte le jour de sa première entrée dans un salon du faubourg Saint-Germain au bras du comte Jouloux du Bréhu et dont personne ne connaissait le passé. Le premier étage de la maison du quai des Orfèvres était loué au nom du comte de Champmas et depuis un mois seulement. Nous ajouterons tout de suite que, le même jour, précisément, on avait loué le second étage au nom du vicomte Annibal Gioja des Marquis Palante, jeune Italien fort bien reçu chez la belle comtesse. Il était 5 heures du soir environ. Dans cette chambre du premier étage, dont Paul Labre avait regardé si souvent le soir les persiennes fermées, une jeune fille, une enfant plutôt, était couchée sur une chaise longue et semblait sommeiller. Elle était pâle comme une vierge de cire. Ses cheveux blonds éparpillaient leurs boucles sur le coussin, et ses cils bruns, demi-clos, laissaient glisser un paresseux rayon. Elle paraissait avoir 13 ou 14 ans à peine, quoiqu'elle eût la taille d'une femme. Sa beauté était d'un ange, mais ces anges qui n'ont fait qu'effleurer la terre et qui vont remonter au ciel. C'était la plus jeune des filles de monsieur de Champmas, sa fille légitime. Sa mère amoureuse lui avait donné le nom de Suavita. Auprès de la chaise longue, une vieille servante en deuil était assise et veillée. « Je ne l'aime pas, » dit tout à coup Suavita d'une voix languissante et douce. Ses yeux étaient fermés. La vieille servante, qui crut à un rêve, demanda tout bas « Dormez-vous, chérie ?»« Non, » répondit l'enfant, dont les longs cils se relevèrent un peu. « Je pense à la comtesse. Elle est pourtant bien belle. »
« Et vous ne l'aimez pas ?»«
Non, j'ai beau faire. Elle a été bonne pour vous, cependant. »« C'est vrai, là-bas au couvent, les religieuses sont bonnes aussi, et je les aime. » Un geste frileux, dont la servante connaissait bien la signification, la fit lever. Elle ramena sur les pieds de la jeune malade la couverture de soie ouatée qui l'entourait. « Merci, Jeannette, » dit Suavita, « j'ai toujours froid. » « Je ne souffre pas beaucoup, mais je crois que je suis bien malade. » Jeannette essaya de sourire. Elle avait des larmes plein les yeux. « Quelle idée, » balbutia-t-elle. « Vous grandissez, voilà tout. Vous êtes si grande que je n'ose plus vous tutoyer, et cela fatigue de grandir. » Les paupières de Suavita se fermèrent tout à fait, pendant qu'elle murmurait. « Oui, cela fatigue. Je suis faible, faible. »« J'étais ainsi quand je grandissais, » reprit Jeannette. « Et tu es bien forte maintenant. Est-ce que ma sœur Isole a été comme cela aussi quand elle grandissait ?»« Sans doute, » commença la servante.
Elle s'interrompit dans ce pieux mensonge pour ajouter en elle-même « Celles-là sont comme les branches d'en bas qui mangent les arbres aux pieds et qui profitent. La bâtarde a pris toute la sève. Rarement, les vieux serviteurs sont du parti des intrus. » « Quand ma sœur Isole aura l'âge, poursuivit Suavita doucement, c'est elle qui sera ma maîtresse. Madame de Clair s'en ira, et nous serons bien heureuses. » « Mais, s'interrompit-elle avec un si joyeux élan, qu'un peu de sang rose revint à la pâleur de sa joue, Père chéri nous sera revenu bien avant ce temps-là. » « Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles ? Demanda vivement la servante. « Je crois bien, répondit Suavita avec une égale vivacité. » Elle s'arrêta pour ajouter, « C'est un grand secret, Isole me gronderait si je le disais. » « Mademoiselle Isole, grondée, mademoiselle, » prononça lentement Jeannette. Et la manière dont nous écrivons diversement ce même mot ne suffit point à rendre la différence emphatique que Jeannette avait mise entre le premier mademoiselle et le second mademoiselle. Manifestement, et quoi qu'on eût pu faire, il n'y avait pour Jeannette qu'une seule demoiselle de Champmasse. « Comme tu dis cela, reprit la jeune fille avec reproche, tu m'aimes trop, vois-tu, et cela fait que tu n'aimes pas assez ma sœur Isole. » Un mot vint à la lèvre de la vieille servante qui se retint et garda le silence. Suavita continuait, « Moi je l'aime bien, oh, mais bien, bien, celles qui n'ont pas de sœur me font pitié. Quand elle vient me voir au courant, tout le monde dit, « Comme elle est jolie, alors je suis heureuse. » « Ah ! » fit-elle, car les idées ne faisaient que passer dans son pauvre esprit affaibli. « J'étais fière aussi de maman chérie, et ma tante reine, comme elle me gâtait. Mon Dieu, toutes celles qu'on aime s'en vont. Si on me disait un jour, tu ne reverras plus, Isole !» Elle frissonna de la tête aux pieds, tandis que Jeannette grommelait amèrement, « Pas de danger que celle-là s'en aille !» « Eh bien, dit la fillette qui poussa un grand soupir en essayant de se retourner sur sa chaise longue, ses persiennes fermées empêchent le jour de me blesser les yeux, mais j'aimerais bien voir au dehors. »« Ici, répliqua la servante, on ne voit pas grand-chose par les fenêtres, des masures sales et des bureaux qui ressemblent à des prisons. Il y a un jardin, et de l'autre côté du jardin... « Ah ! Fit Jeannette, qu'est-ce que c'est auprès du jardin de l'hôtel de Champmasse ? Voilà un paradis !» Suavita poursuivit, comme si on ne l'eût point interrompu. De l'autre côté du jardin, une vieille tour, deux tours en comptant la petite où est la fenêtre du jeune homme. Jeannette se prit à écouter, étonnée et inquiète. On dit que les enfants malades sont presque des grandes personnes, pensa-t-elle. Suavita continuait. « Depuis que je suis ici, je n'avais jamais vu âme qui vive à la fenêtre de la grande tour, mais aujourd'hui... » Au lieu de poursuivre, elle mit sa main au-devant de ses yeux, une pauvre main transparente et si blanche qu'on eût dit de l'albâtre. Cette main tremblait. « Aujourd'hui, répéta Jeannette curieuse, il y a des moments, dit l'enfant avec fatigue, où je ne sais plus bien si j'ai rêvé ou si j'ai vu, mais j'ai encore froid dans les veines en y pensant. Je ne me souviens pas d'avoir jamais eu si grand peur. Approche-toi, je vais te le dire. » Jeannette obéit. Ah, plus près encore, et tiens mes mains dans ta main. Aujourd'hui, j'ai vu, je suis sûr, un homme. Oh, si un homme pareil pouvait pénétrer jusqu'ici, je crois que je mourrais de frayeur. » Elle frissonnait de tous ses membres, et ses yeux, grands ouverts, s'égaraient. « Chérie, chérie, dit Jeannette, que l'effroi prenait, vous avez eu un cauchemar à l'heure de votre accès. Non, rassure-moi autrement, j'ai vu, je suis sûr d'avoir vu, une figure terrible, des bras énormes et l'homme regardé de ce côté. Dis-moi plutôt que nous sommes bien gardés, est-ce qu'un homme semblable pourrait arriver jusqu'à moi, Jeannette ?»« Assurément non, répondit la servante, convaincue cette fois que l'enfant disait la vérité. Ce n'est plus comme à l'hôtel de Champmasse où nous étions 14 gens de service, mais il en reste encore 4. Madeleine, qui est aussi robuste qu'un garçon, Pierre et Baptiste, qui sont solides tous deux. D'ailleurs, nous sommes si près de la préfecture. Chaque fois qu'on me montre un passant dans la rue, on me dit « c'est un inspecteur ». Les sergents de ville, on n'aurait qu'à japper tout bas à la garde pour voir la maison pleine de secours. » En écoutant cela, Suavita, rassurée, se mit à sourire. Je suis folle, pensa-t-elle à haute voix. Pourquoi viendrait-il d'ailleurs? Il avait à la main une pioche, comme les paysans là-bas au château. Mais je ne l'ai pas regardé longtemps parce que le jeune homme qui demeure auprès de la tour est venu s'accouder à sa croisée. Ses yeux étaient tournés vers moi. J'ai cru qu'il me voyait. Si tu savais comme il a l'air triste. Mon père est riche, n'est-ce pas, Jeannette? Il l'était. Il le sera encore. Tu ne sais pas tout, et moi j'ai promis d'être bien discrète. Je dirai à mon père que ce jeune homme est malheureux. Mais peut-être ne voudrait-il pas d'argent, car il a de beaux yeux, si fiers. Jeannette, qui avait d'abord froncé le sourcil, baissa ses paupières mouillées. Elle se disait, pauvre cher enfant, sa fièvre vit de rêve. La porte s'ouvrit brusquement et Suavita poussa un petit cri de joie. « Isole, dit-elle, ma sœur !» Une jeune fille de 16 à 17 ans, admirablement belle et gracieuse, venait de franchir le seuil. Elle traversa la chambre et vint mettre un baiser caressant sur le front de Suavita ranimée. Puis elle se tourna vers Jeannette qui avait d'instinct reculé sur son siège. « Vous pouvez partir, ma fille, » dit-elle froidement, mais avec bonté. « Demain matin, » commença la servante. « Non, non, ce serait un jour de perdu. J'ai pris mes mesures et c'est moi qui serai la gardienne de Suavita jusqu'à votre retour. »« Quel bonheur !» s'écria la fillette en joignant ses pauvres mains pâles. Il y avait un vague soupçon dans les yeux de Jeannette. « Vous m'avez dit que votre frère malade désirait vous voir, » reprit Isole. « Je vous donne 24 heures. C'est à prendre ou à laisser. » Jeannette murmura « Merci, mademoiselle », qui sembla lui écorcher la bouche au passage. Puis elle porta jusqu'à ses lèvres les deux mains de Suavita et sortit. Isole la regarda s'éloigner, puis elle mit un doigt sur sa bouche souriante dont le frais incarnat éclatait comme une fleur. Elle se pencha vers l'enfant qu'elle serra tendrement dans ses bras en disant « Chut, il fallait la renvoyer. Madeleine, Pierre et Baptiste sont aussi dehors. J'ai eu besoin d'adresse pour faire tout cela, moi seule. » L'enfant riait, confiante. « Tu n'auras pas peur, » continua Isole, « puisque tu me gardes. » Isole la souleva et lui dit dans un baiser « Écoute, c'est aujourd'hui le grand jour. Personne ne doit être dans notre secret. » Ce soir, nous allons embrasser notre père. » Elle était cette belle Isole, éblouissante de force, de santé, de jeunesse. Non point du tout dans le sens vulgaire de ces mots, qui impliquent je ne sais quoi d'offensant dans le langage commun, parce qu'ils servent à caractériser cette banale prospérité de la Vierge bien conditionnée qu'on appelle la beauté du diable. C'était une force élégante, une santé nerveuse, qui se traduisait par l'admirable pâleur des passionnés. C'était une jeunesse légère et souple, hardie et fine, où se devinait déjà la grâce de la femme. Isole était brune. Ses splendides cheveux noirs, auxquels la lumière arrachait un reflet fauve, s'ondulaient naturellement sur un front plutôt bas, mais modelé selon d'adorables lignes. Ses yeux, longs, fendus, noirs et rendus plus noirs encore par l'ombre de ses sourcils veloutés, avaient une exquise douceur quand elle voulait, leur regard fascinait ou domptait. Son nez droit, à la moindre émotion, relevait en frémissant ses ailes fières. Sa bouche était un sourire enchanté ou un impérieux commandement. Elle était grande. Rien ne peut dire les délicieuses mollesses de sa ceinture, chacun de ses mouvements appelait et charmait. Et certes, il y avait quelque chose de pénible à voir la victorieuse et vivante perfection de ce chef-d'œuvre auprès de cet autre enfant, belle aussi, mais vaincue, mais frappée, et qui s'en allait mourant comme une pauvre fleur que le baiser de la larve a touchée. C'était un contraste insolent, d'autant plus que le triomphe de l'une rabaissait davantage la détresse de l'autre. Au dernier mot d'Isole, « Ce soir, nous allons embrasser notre père », les joues de Suavita étaient devenues plus pâles, mais tout son sang remonta bien vite, et un souriant éclair s'alluma dans ses grands yeux. « Mon père, dit-elle, mon bien-aimé père !»« Si tu savais comme tu es gentil ainsi, amour !» s'écria Isole dans un sincère élan de tendresse. « Oh, que je te voudrais guéri, afin que notre père fût heureux !»« Tu es bonne, » murmura l'enfant, « il n'y a rien sur la terre de si bon que toi. » Isole était peut-être bonne, en effet, mais il y avait en elle à ce moment une joie profonde qui la faisait meilleure, et cette joie ne se rapportait pas tout entière à la délivrance de son père. Elle s'assit auprès du lit de repos, bien près, et prit les mains de sa petite sœur entre les siennes. « J'ai besoin de causer, dit-elle, je suis heureuse. » « Et moi donc, s'écria Suavita, il me semble que je n'ai plus mal. Mon Dieu, tu as raison, Isole, tu es heureuse. C'est toi qui as tout préparé pour le salut de notre père. Oh, je ne suis pas jalouse de toi, ma sœur, mais ce doit être si bon de travailler pour ce qu'on aime. »«
Pour ce qu'on aime, » répéta Isole, dont les grands yeux rêvaient.
« Dis-moi ce que tu as fait, » reprit Suavita. « C'est à peine si jusqu'ici tu m'as glissé quelques paroles en passant. N'est-il pas temps de me mettre au fait ?»
C'est vrai, tu as le droit de tout savoir, et désormais rien ne peut plus nous faire obstacle. J'ai bien travaillé depuis quelques semaines, mais j'ai été si bien aidée. Écoute, tu ne comprendras peut-être pas tout, ma pauvre petite sœur, car ce sont des choses au-dessus de ton âge. Il y a des gens puissants qui s'intéressent à nous. Sais-tu ce que c'est que conspirer, Suavita?
« Oui, répondit l'enfant, j'ai vu des conspirations dans l'histoire romaine. »«
Catilina, s'écria Isole, un jeune homme vaillant et brave, qui joue avec des milliers d'existences, oui, c'est bien cela, et c'est magnifique, n'est-ce pas ?»«
Dans les conspirations, dit Suavita, je crois qu'on court danger de perdre la vie. »
Mais certes, toujours, c'est le grand et terrible enjeu de ces parties. Eh bien, notre père conspirait, et le prince conspire. »
« Quel prince ?» demanda l'enfant. Au lieu de répondre, Isole mit ses lèvres sur le front de la petite malade et murmura d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Serais-tu bien contente si ta sœur devenait princesse ?» La fillette ouvrit de grands yeux étonnés. « Si tu étais bien contente d'être princesse, commença-t-elle ? » Isole l'interrompit par une caresse nouvelle et reprit en riant.
« Quand je cause avec toi, je deviens aussi enfant que toi. Ce n'est pas là ce que tu voulais savoir. Notre père fut donc mis en prison pour avoir conspiré, et l'État lui prit ses biens. Il a beaucoup d'amis dans le gouvernement qui pensent que sa condamnation fut injuste. J'ai vu une lettre de lui qui disait « Si j'étais en liberté à l'étranger, je serais bien assez riche encore des fonds que j'ai placés en Angleterre et en Allemagne. » Les débats de mon affaire ont laissé une impression de doute dans tous les esprits. Il ne se passerait pas un an sans que j'obtinsse amnistie.
Cela veut dire qu'il aurait sa grâce, demanda Suavita. Isole releva sa belle tête mutine.
Ceux qui conspirent, dit-elle avec fierté, ne prononcent jamais ce mot-là.
Alors, insista l'enfant, quand on leur fait grâce, ils refusent. Isole rougit, puis sourit.
« Oh, tu es trop jeune, dit-elle, pour comprendre ces choses. »«
Mais songe donc, interrompit-elle précipitamment, à ce que je serais devenue si j'avais été toute seule. Notre cousine de Claire a été charmante. Oh, charmante, tu l'aimeras quand tu la connaîtras mieux. Elle m'a dit une fois, « Ma fille, vous avez un grand devoir à remplir. Vous êtes bien jeune, mais Dieu vous a donné la force d'âme et l'intelligence. » « Moi, j'ai les mains liées par mon mari, à qui je dois obéissance. »«
Il a l'air de souffrir et ne commande jamais, » dit Suavita.
« Qui ? Le comte de Clair, le breton Jouloux du Bréhu, un sauvage du Morbihan, un homme terrible quand on lui résiste. Ah, pauvre amour, tu ne connais pas les maris. Notre cousine pleure bien souvent. Mais voilà tes jolis yeux qui battent. Tu as sommeil ?»
« Je ne veux pas dormir, » s'écria la fillette, « je veux attendre notre père. »«
Ce que tu attendras longtemps, et le docteur défend bien qu'on te fatigue. Sais-tu, quand notre père viendra, je te promets de t'éveiller. »
Suavita secoua sa blonde tête.
« Quelle pauvre créature je suis, » murmura-t-elle, « mes yeux sont là, ma tête est lourde, et cependant je ne pourrais dormir si je ne prenais la potion qui m'assoupit tous les soirs. »
Isole glissa un regard vers la pendule. Le jour allait baissant.
« Veux-tu prendre ta morphine ?» demanda-t-elle.
« Pas encore, tu ne m'as rien dit. Raconte, je t'en prie. »
Isole semblait désormais préoccupée. Où en étais-je? Reprit-elle d'un ton distrait et déjà fatigué. Ah, j'allais te dire que notre bonne cousine de Claire, ne pouvant rien par elle-même à cause de son mari, fit venir le prince. Il y a des secrets qu'on ne peut révéler même à sa chère petite sœur. Le nom du prince dont je te parle est un secret de cette sorte. Mais je peux bien te dire que c'est un prince comme il y en a peu, un prince de sang royal. Un fils de roi, interrompit Suavita, dont la curiosité enfantine s'éveillait. Le fils d'un roi, rectifia Isole avec une singulière emphase. Puis, s'animant malgré elle et cédant au courant d'une mystérieuse émotion, elle poursuivit d'une voix altérée. Oh, dès la première fois que je le vis, je compris que notre père était sauvé. Il y a des hommes auxquels rien ne résiste et qui prennent les cœurs avec une seule parole, avec un seul regard. Oh, murmura l'enfant qui pensait tout haut, un seul regard, cela est bien vrai, ma sœur. Encore une fois, ses paupières se fermèrent. Isole, tout entière au souvenir évoqué, ne prit point garde à cette singulière interruption et continua. Ah, il est grand, il est noble, il est généreux. Mon âme s'élança vers lui et il me sembla voir un de ces héros chantés par les poètes. Ses yeux me parlèrent, sa voix me fit battre le cœur. Sous la couverture de soie, le sein de Suavita palpitait. Tu sens bien, amour, interrompit Isole, que tout cela avait trait à la délivrance de notre excellent père. De cette première entrevue, le prince me promit son aide, et avec quelle grâce chevaleresque. Il écouta mes explications, il entra ardemment dans mes espoirs. On eût dit que désormais, notre père avait un fils dévoué. Ah, car il l'aime, ma sœur, oh, si tu savais comme il l'aime. Suavita eut un espiègle sourire et dit « C'est toi qui l'aimes, va, je devine bien. » La joue d'Isole avait maintenant des tons pourpres, d'un éclat admirable, ses yeux rayonnaient. « Que Dieu t'entende, chérie, murmura-t-elle, avec la franchise des profonds entraînements. Celle qui l'aimera sera une femme heureuse et glorieuse. » Suavita lui tendit la main et l'attira vers elle pour avoir un baiser. C'était un groupe charmant. Je ne sais quelle vie animait maintenant l'exquise gentillesse de l'enfant qui continua « Raconte encore. » Il fut convenu qu'on tenterait une évasion du Mont-Saint-Michel. Le prince dispose de moyens considérables et qui tiennent de la féerie. Les préparatifs se faisaient déjà lorsque nous apprîmes que notre père serait appelé à Paris pour témoigner dans l'affaire des officiers suisses qui se rattachent au complot de la duchesse de Berry et à la petite Vendée. Aussitôt, nos projets furent modifiés et le prince organisa un système d'évasion pour le jour où notre père paraîtra en justice. C'est pour cela que nous sommes dans cette maison, tout près du palais. « S'il allait arriver malheur, murmura Suavita. Le prince répond de tout, dit Isole péremptoirement. Le prince, répéta l'enfant, ce doit être un grand bonheur que d'être prince et puissant pour aider celle qu'on aime. » Isole la regarda, étonnée. Suavita semblait sommeiller déjà. « Veux-tu ta morphine ?» demanda Isole, qui, pour la seconde fois, tourna ses yeux impatients vers la pendule. La fillette fit de la main un geste de consentement. Isole se leva et alla vers la table de nuit où était la potion. Pendant qu'elle s'éloignait, Suavita entr'ouvrit ses lèvres d'où tombèrent quelques paroles. « Il n'est pas prince, lui, disait-elle, il souffre. Ah, je voudrais être princesse, il ne souffrirait plus. »« Combien de gouttes ?» demanda Isole. « 3. » Isole versa. Suavita poursuivait. « Quand nous vîmes ici pour la première fois, il y a un mois, il s'accoudait à l'appui de sa pauvre croisée avec une femme en deuil, bien pâle, bien maigre, et qui semblait si faible. » Comme il l'aimait, et comme il la regrette, c'était sa mère, elle l'est morte, le voilà seul maintenant, personne ne me l'a dit, mais je le sais. » Isole revenait avec le breuvage. Suavita but et lui tendit son front en disant « N'oublie pas de m'éveiller dès que notre père va venir. » Sa tête charmante se renversa dans les boucles de ses cheveux. Pendant quelques minutes, Isole contempla son sommeil léger mais calme. Sa pensée était ailleurs. La nuit se faisait. Isole alluma elle-même une lampe et la posa sur la cheminée. Puis elle alla ouvrir les persiennes pour jeter un long regard sur la ligne des quais. Ce fut à ce moment que Paul Labre la vit par la fenêtre de sa mansarde. Un bruit se fit dans la chambre voisine. Isole, le front rayonnant, les bras étendus, s'élança, et Paul, voyant cela de loin, ferma sa fenêtre pour reprendre tristement son suprême travail. Dans la chambre voisine, un grand et beau jeune homme venait d'entrer. Quand la lueur de la lampe passant à travers la porte vint éclairer son visage, vous eussiez été frappé au premier aspect par l'étrange ressemblance de ce visage aquilin, régulier mais un peu charnu, avec le type plus populaire alors qu'aujourd'hui de la descendance bourbonienne. C'était un portrait de Louis XV jeune, détaché de son cadre. L'illusion s'augmentait encore par l'arrangement étudié d'une riche chevelure dont les boucles d'un blond châtain tombaient jusque sur les épaules du nouvel arrivant. Ceux qui se souviennent des modes de 1835 et des perruquiers romantiques de cette époque pourront témoigner qu'à Paris, les gamins blasés n'auraient point pris la peine de suivre un monsieur coiffé à la Louis XIV. Tout était permis en fait de toison. Isole, heureuse et toute palpitante, saisit les mains de ce demi-dieu et voulut les porter à ses lèvres. Il daigna l'arrêter très galamment et la baisa au front avec une souveraine noblesse. « Mon prince, mon seigneur, mon Louis !» dit la jeune fille d'une voix contenue où la tendresse éclatait malgré elle. « Quand vous ne venez pas, j'ai toujours peur de m'éveiller de mon beau rêve. » Comme il ouvrait la bouche pour répondre, elle mit un doigt sur ses lèvres et montra Suavita endormie. « Ah ! » fit le prince, « la petite sœur malade, laissons-la reposer, mon bel ange, et venez sur la terrasse d'où nous pourrons voir le signal, rien qu'en levant les yeux. Je n'ai pas besoin de vous dire que si je suis en retard, c'est que je m'occupais de vous. » Il lui offrit son bras, où elle appuya ses deux mains croisées pour le contempler avec une dévote admiration. « C'est si bien un rêve, » reprit-elle en extase. « Le petit-fils de Henri IV d'un côté et de l'autre, moi, une pauvre fille. »« Souvenez-vous, » répliqua le prince, « que le Béarnais, mon vénéré aïeul, ne demandait pas mieux que d'épouser sa belle Gabrielle. Le général de Chormas vaut bien ce vieux canonnier d'Estrée, dont le château était un mauvais lieu campagnard. » J'ai envie de jurer un peu, ventre Saint-Gris, pour vous dire que jamais plus adorable front ne mérita une couronne royale. » Il effleura cet adorable front d'un baiser de cour, et la beauté d'Isole rayonna comme si un regard du soleil l'eût touché. « Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau, mon prince ? » demanda-t-elle. « J'entends pour vous, pour vos droits. »« Mes droits, » répondit-il en riant, « ceux qui sont en exil et qu'on appelle la branche aînée des Bourbons les ont mis bien bas, mes droits. » Et les bourgeois de la branche cadette ne me paraissent pas décidés à lâcher les douceurs de la liste civile. Mes droits sont ridicules, cher bien-aimé. On s'en moque au faubourg Saint-Germain comme aux Tuileries. Mais patience. Dois-je vous dévoiler mon égoïsme, charmante Isole? Mon amour eût certes suffi à me mettre à vos genoux, prêt à combattre des géants sur un signe de votre blanche main, mais quand notre prisonnier va être libre, j'espère bien avoir acquis à ma cause un des meilleurs officiers généraux de l'armée française. Si le comte de Chamas n'était pas corps et âme à votre Altesse royale, s'écria Isole enthousiaste, je le renierais pour mon père. « Vous êtes une loyale sujette, et je vous remercie, » répliqua le prince, toujours aussi gaiement. « Parlons affaires. Vous avez éloigné vos gens. La maison est complètement vide. Je viens de voir une voiture stationnant au coin de la rue du Harlay. Je suppose que c'est la vôtre. C'est la mienne. Nous n'en aurons pas pour longtemps, et vous reviendrez ce soir veiller votre intéressante petite poitrinaire quand le général sera en sûreté. » « C'est vous qui devez le sauver. Je vous ai réservé cette joie. »« Oh, prince !» s'écria Isole, « comment payer jamais un peu de votre amour et je serai trop généreusement récompensé. » Il ferma vivement la bouche d'Isole qui allait répliquer. « Regardez, » dit-il. Ils étaient sur la terrasse. La nuit était tout à fait tombée. Le prince montra du doigt le balcon du deuxième étage où une lueur s'alluma pour s'éteindre aussitôt. « On a enlevé le foulard rouge, » prononça-t-il tout bas. « Votre père est libre. » Les genoux d'Isole fléchirent. Mon roi, balbutia-t-elle, mon Dieu, je suis à vous, corps et âme. Il se releva galamment et dit, votre voiture vous attend, cher adoré, à demain, et mille compliments au général. Isole s'élançait déjà au dehors. Le prince l'arrêta pour lui montrer Suavita endormie. Prenez la clé, dit-il en sortant le premier. Isole obéit. Après avoir fermé la porte, elle murmura en rougissant et comme pour s'excuser, ah, « Votre excellent cœur pense à tout, moi je suis folle, mais je n'ai pas d'inquiétude pour cette chère enfant dont le sommeil va durer jusqu'à demain, à moins que je ne l'éveille pour lui dire, « Suavita, voici notre père que le plus noble des hommes nous a rendu. » Ses doigts charmants envoyèrent un baiser. Elle disparut. Le prince descendit quelques marches derrière elle, comme si son dessein eût été de gagner la rue. Mais quand le pas d'Isole cessa de se faire entendre, il rebroussa chemin et monta lentement l'escalier qui conduisait au deuxième étage. Le palier du deuxième étage n'était pas éclairé. Le prince frappa à la porte du milieu 6 coups ainsi espacés, 3, 2, 1. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-on à travers le battant fermé. « Achetez du drap noir, » répondit le prince. La porte s'ouvrit et la voix qui avait déjà parlé dit « Entrez avec le voile. »